Bon, j'avoue que cette nomination est une surprise. J'étais à mon travail de pasteur ordinaire. J'étais au sanctuaire marial de Yarma. C'est un sanctuaire marial qui est à la périphérie de la capitale, Ouagadougou, avec tous les catéchistes du diocèse. Nous avons 370 catéchistes titulaires. Ils étaient avec leurs femmes. En outre, nous avons des catéchistes dits volontaires qui aident les catéchistes titulaires dans les villages pour la catéchèse des adultes. Et nous avons des papas et mamans catéchistes, 2600, qui encadrent les enfants dans les communautés chrétiennes de base. Alors j'étais donc avec mes catéchistes ce 12 février. Après la messe, j'ai eu un entretien avec eux sur Evangelii Gaudium. Et je me suis excusé un peu avant midi pour retourner à l'archevêché et entreprendre un voyage à Bobo-Dioulasso, à 380 km de Ouagadougou, pour participer à l'assemblée plénière de la conférence épiscopale du Burkina-Niger. Alors, chemin faisant, au retour, un journaliste italien, un certain Roberto, me rejoint au téléphone pour me féliciter. Alors, j'ai tombé des nues. J'ai dit, mais vous ne vous êtes pas trompé d'adresse par hasard? Il dit, mais c'est bien vous, l'archevêque de Ouagadougou? J'ai dit, oui, présentement, c'est moi. Ben, je viens d'entendre de la bouche du Saint-Père votre nom parmi les néo-cardinaux. Voilà comment j'ai reçu la chose. Bon, c'était pour moi, disons, une surprise. Je suis étonné de l'enthousiasme avec lequel les Burkinabés ont accueilli la nouvelle, aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. J'ai reçu beaucoup de félicitations, de coups de fil, de lettres de la part non seulement des chrétiens, mais aussi du gouvernement, des frères musulmans, des imams m'ont téléphoné, m'ont écrit, les chefs coutumiers, mes frères protestants aussi, des pasteurs. Voilà, c'est dire que le peuple de Dieu et les Burkinabés en général ont accueilli cette nouvelle avec joie et enthousiasme, et je crois avec espérance aussi. Alors, le pape paternellement a envoyé une lettre à tous les néo-cardinaux où il dit l'essentiel de cette mission. Il nous rappelle dans sa lettre que ce n'est pas une promotion, ce n'est pas un honneur, ce n'est pas une décoration, c'est un service. Saint-Augustin dirait un service d'amour. Et pour s'acquitter de cette mission, le pape lui-même nous conseille de revêtir les vertus et les sentiments de Jésus-Christ. Et il termine en nous invitant à l'humilité et en proposant la Vierge Marie comme modèle par excellence d'une telle mission. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, c'est pourquoi j'ai tenu, avant de venir au consistoire, à avoir un temps de silence et de retraite que j'ai eu à faire à Assise et à Sasso Vivo, un monastère foucauldien. Puisque je suis de cette sensibilité, je fais partie de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas depuis que j'étais prêtre. Alors, je me suis retrouvé donc chez les petits frères de Jésus, de Sasso Vivo, et de là, j'ai fait un séjour à Assise. J'ai eu à célébrer, à prier à la basilique Saint-François d'Assise et à la basilique Sainte-Claire avec les Clarisses. J'ai eu à célébrer l'Eucharistie, à prier personnellement. Alors, nous croyons à la communion des saints. J'espère que ces trois saints, Saint-François d'Assise, Sainte-Claire et le bienheureux Charles de Foucault, ben, intercéderont pour moi. Et si les choses se passent mal, ben, c'est qu'ils n'ont pas fait, ils n'auront pas fait leur travail. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour ce temps spirituel qui me permet d'aborder avec sérénité cette nouvelle mission à laquelle le pape a bien voulu m'associer, même si je ne me sens pas digne d'une telle mission. Je ne suis rien d'autre qu'un instrument quelconque de la sollicitude du Saint-Père, qui a voulu considérer avec bienveillance notre Église famille de Dieu au Burkina Faso.
On sait que vous êtes très attentif à la situation des plus vulnérables, des pauvres dans votre pays. Est-ce que vous pensez que ça contribue aussi au fait que vous soyez demain créé cardinal? Est-ce que vous pensez que c'est une des priorités sur lesquelles vous pouvez avoir un rôle particulier dans votre mission comme cardinal?
Non, comme prêtre ou évêque, je n'ai jamais travaillé pour attendre une récompense quelconque. D'ailleurs, c'est biblique. Dans l'Évangile, le serviteur fait son travail et rien d'autre. Je n'ai jamais rêvé être un évêque. On m'a appelé à l'épiscopat, ce n'est rien d'autre qu'un service. J'ai été évêque dans un diocèse à Ouaïguia, aux confins du Mali, pendant 12 ans, 6 mois. Et je me suis vu transférer à Ouagadougou, à la capitale, il y a 5 ans, en 2009, sans avoir jamais rêvé d'être ni évêque à Ouaïguia, encore moins archevêque à Ouagadougou. encore moins cardinal. Je me demande pourquoi le Seigneur a permis tant de choses dans ma petite existence de chrétien et de pasteur. Alors j'essaie, à la suite de Charles de Foucault, d'accueillir les choses avec l'abandon. Vous connaissez la prière d'abandon de Charles de Foucault, que j'ai pris chaque jour, et une confiance totale en demandant au Seigneur de faire de moi un instrument utile, un collaborateur indéfectible du Saint-Père dans sa mission pastorale de l'Église universelle.
Qu'est-ce qui changera concrètement dans votre travail quotidien maintenant que vous serez cardinal ?
Voilà, vous parlez des pauvres, etc. C'est sûr que je suis né d'une famille très modeste dans un village de la savane africaine. Donc je suis très sensible à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'émerger, point de vue école. Dans mon village, il y a beaucoup de camarades d'enfance qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'était avant l'indépendance en 1960. À peine 20-25% des enfants allaient à l'école à l'époque. Donc je suis un privilégié. Donc je suis très sensible à tous ceux qui sont les laissés pour compte, les défavorisés, les démunis. Voilà ça. Et dès que j'ai pris possession du siège de Ouagadougou, l'archidiocèse, mes premières visites, c'était les prisonniers, les femmes qui vivent dans un centre, les femmes marginalisées pour questions de sorcellerie, etc., etc. Voilà, c'est un exemple de ce que je porte en moi. Et je pense que, à la suite du pape qui donne le ton dans ce sens, je ne saurais que chercher à intensifier cette attention, cette écoute, cette présence, cette proximité par rapport à tous, et notamment aux plus petits et aux plus pauvres.
Quels sont aujourd'hui les défis de l'Église au Burkina Faso ? Est-ce que c'est juste par rapport à ces thématiques-là ? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses.
Bon, si vous posez là une question très complexe, dans Ecclesia in Africa, l'exhortation post-synodale, le pape Jean-Paul II rappelle aux fils et filles d'Afrique que tous les baptisés sont appelés à la sainteté et sont appelés à la mission. Voilà deux pôles auxquels je suis très sensible et j'essaie de rêver dans ce sens et d'aider mes chrétiens, les fidèles chrétiens et les catéchumènes à rêver, à œuvrer dans ce sens et à aller au large d'Ukinaltum dans ce sens-là, la sainteté et la mission. La sainteté, vivre de l'Évangile, une famille, une Bible, un chrétien, une Bible, c'est fondamental. La parole de Dieu, les sacrements, voilà, l'amour de Dieu, l'amour des frères, voilà des thèmes majeurs évangéliques que nous essayons de développer dans le sens de sa sainteté. En outre, il y a la mission. Tous les baptisés sont appelés à la mission. Nous sommes une terre de première évangélisation. Le catéchuménat adulte est très développé. À Pâques dernier, nous avons baptisé près de 6000 adultes. Alors notre souci est de faire prendre conscience à tous les baptisés, y compris les catéchumènes, leur rôle irremplaçable d'être témoin de Jésus dans le quotidien de la vie. Tous les baptisés sont missionnaires par la prière, par le don de leur personne au niveau des communautés chrétiennes de base, au niveau des paroisses ou des diocèses, par le don de leurs biens aussi. Nous œuvrons beaucoup dans le sens de l'autoprise en charge. Voilà, ce sont des grands défis de notre Église. Et enfin, chrétiennement, l'offrande de ses souffrances aussi, à la manière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, contribue à une valeur rédemptrice et contribue efficacement à l'avancée de la mission. Et nous devons privilégier l'être par rapport au faire. Et la force de nos églises particulières résideront dans l'être et non dans le faire. Et comme disait Charles de Foucault, si nous ne vivons pas l'Évangile, Jésus ne vit pas en nous. Et si Jésus ne vit pas en nous, nous ne sommes pas Église de Jésus-Christ.
On va avoir deux synodes sur la famille. En Europe, se pose beaucoup la question de divorcer et remarier, des thématiques qui... Est-ce qu'elles existent aussi dans votre pays ? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait bouger ? Quels sont les espoirs de la famille ou leurs difficultés ?
L'avenir de l'humanité et l'avenir de l'Église résident dans le mariage et la famille. C'est capital. Malheureusement, nous voyons qu'aujourd'hui, la famille est agressée, éprouvée dans tous les sens. Il y a une crise énorme, mais la crise est essentiellement anthropologique. Qu'est-ce que l'homme, le sens de la vie, on a perdu le sens du mariage, etc. Le pape à Rio de Janeiro, avec les jeunes au GMJ, dénonçait les idoles auxquelles nous sommes esclaves. Il y a beaucoup d'idoles de nos jours. Le pouvoir, l'avoir, le plaisir, le sexe, etc., etc., la sainte liberté, voilà, chacun fait ce qu'il veut, l'abbaye de Thélème, faire ce qu'on voudra. Alors, face à tous ces défis, la famille est certainement éprouvée. Et nous voudrions, nous souhaitons que ce synode puisse vraiment apporter une lumière, un éclairage nouveau à partir de l'écriture, à partir de la révélation et l'enseignement du concile pour un renouveau de la famille. Alors les débats au consistoire sont très enrichissants. Nous voyons que selon les zones géographiques, les défis pastoraux ne sont pas toujours les mêmes. C'est sûr que la question du divorce et du mariage concerne tout le monde, mais selon les contextes pastoraux, émergent d'autres défis. Je prends par exemple le défi de la polygamie. Ici, on est préoccupé de l'acceptation et de l'admission des divorcés et remariés à la table eucharistique. De notre côté, en Afrique comme en Asie, vous prenez le problème de la polygamie, l'admission des polygames traditionnels, des polygames selon la coutume locale. Je ne parle pas des chrétiens qui retombaient dans la polygamie, mais des gens qui ont vécu honnêtement selon leur coutume et qui sont polygames et qui se présentent à l'église et demandent le baptême. Alors c'est des énormes problèmes. Donc la praxis depuis le XVIe siècle, c'est la séparation des époux pour être baptisé, ce qui ne va pas sans problème. Donc nous souhaitons que ce synode sur la famille prenne dans sa globalité, dans sa complexité, ce problème de la famille, qu'on ne se focalise pas sur un seul défi pastoral propre à certaines églises par rapport à d'autres, et que vraiment ce synode apporte un éclairage nouveau, aussi étendu que possible, par rapport aux nombreux défis auxquels la famille est confrontée de nos jours.